Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au moment de remettre la Légion d'honneur à l'ambassadrice américaine à Paris, mi-janvier, François Hollande avait prévenu « L'Union européenne ne se laisserait pas dicter sa conduite par le nouveau président des États-Unis ». L'Europe, disait-il, sera toujours prête à poursuivre sa coopération transatlantique, mais elle se déterminera en fonction de ses intérêts et de ses valeurs. C'était il y a tout juste 3 semaines, et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis cette date, Donald Trump n'a rien fait qui puisse rassurer ses partenaires. Sa décision d'interdire l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans donne une idée de sa détermination à appliquer ses idées sans tenir compte des avis contraires. Le sommet européen de vendredi dernier à Malte était donc attendu comme une première occasion pour les 28 d'afficher clairement et fortement leur désapprobation commune, de faire front face aux outrances de Trump. Le résultat est bien plus timide, aucune déclaration tonitruante. Manifestement, la préservation de la relation transatlantique prime aujourd'hui sur tout le reste. Alors l'Europe et la France ont-elles intérêt à se fâcher avec les États-Unis ? C'est la question que nous allons poser à 3 invités ce soir. Alexandra Dobscheffer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques, directrice à Paris du think tank américain Jordan Marshall Fund of the United States et co-rédactrice en chef de la revue politique américaine. Christian Lequen, notre deuxième invité, bonsoir.
Bonsoir.
Je souris parce qu'à chaque fois que je prononce le nom du think tank que dirige Alexandra Dobscheffer, mon accent est absolument abominable et ça fait des années que ça dure. Christian Lequen, vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Vous avez dirigé de 2009 à 2014 le CERI, le Centre de Recherche Internationale, et vous venez de publier aux éditions du CNRS « Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français ». Et puis troisième invité, Benjamin Houdet, bonsoir.
Bonsoir.
Doctorant en sciences politiques à l'Université de Poitiers, vous travaillez sur les coopérations internationales en matière de renseignement. Vous avez signé avec Olivier Chopin l'an dernier, cher Armand Collin, renseignement et sécurité. Alors, je voudrais qu'on démarre avec vous trois sur ce sommet européen de vendredi à Malte, dont on ne peut pas dire qu'il ait vraiment fait la une de l'actualité. Le Monde, quand même, faisait un compte-rendu de ce sommet européen avec ce titre « L'Europe choisit la prudence ». Face aux éclats de Donald Trump, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose, Christian Lequen ?
Non, je ne crois pas. Vous savez, c'est toujours très très difficile de réagir de manière très sévère lorsqu'il y a peu d'expérience encore du pouvoir. Hein. Trump vient d'arriver. Bon, effectivement, il y a eu des déclarations sur l'intégration européenne qui n'ont pas échappé aux chefs d'État et de gouvernement. Mais en même temps, on a toujours un peu l'espoir du côté européen que le président va être différent du candidat, qui va un peu se calmer, qui ne va plus dire n'importe quoi. Et je crois que ça explique, c'est-à-dire que du côté européen, on espère que la fonction présidentielle va un peu le réguler, en quelque sorte. C'est un peu ça, l'espoir encore pour l'instant.
Donc on est encore aujourd'hui dans l'attentisme. Bon, faut dire que ça fait seulement un mois, hein, à peine un mois que Donald Trump a pris ses fonctions, Alexandra Dobscheffer.
On est dans l'attentisme et en même temps, la lettre de Donald Tusk qui a été circulé au sein des États membres de l'Union européenne il y a quelques jours
Donald Trump.
Exactement, et c'est vrai, il y a beaucoup de Donald dans l'histoire, mais qui est le président du Conseil européen et qui a quand même, qui était très parlante. Il a dit, voilà, les États-Unis, l'Amérique de Trump ouvre un nouveau chapitre dans la relation transatlantique. Il a même été jusqu'à finalement citer les États-Unis comme une menace à la même hauteur que la Russie, la Chine, le terrorisme. Mais ce qui, moi, m'est paru très intéressant, c'est sa conclusion où il a dit, l'Union européenne doit saisir ce nouveau chapitre avec Trump comme une opportunité notamment sur le plan commercial. Et d'ailleurs, l'Union européenne l'a déjà montré en accélérant les négociations commerciales avec le Mexique dans un contexte de tension diplomatique entre les États-Unis et le Mexique. Et pourquoi pas aussi commencer à repenser notre diplomatie, nos relations commerciales par rapport à la Chine et à l'Asie, alors que Trump s'est aussi retiré du traité transpacifique. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Effectivement, à Malte, il n'y a pas eu, disons, un front comme le souhaitait peut-être le président français Hollande contre Trump. Mais je pense que d'être dans la confrontation avec Trump n'est pas la bonne solution. Je reprendrai juste la formule d'Hubert Védrine qui me semble très bien illustrer la posture dans laquelle on va être avec Trump, nous, Européens et Français. C'est amis, alliés et pas alignés. ce qui a finalement toujours dicté notre posture. Rappelez-vous l'Irak en 2003, la France s'est pas alignée, l'Allemagne s'est pas alignée sur l'intervention en Irak, tout comme inversement, les États-Unis ne se sont pas alignés avec la France quand la France en 2013 a dit qu'il fallait intervenir militairement en Syrie. Donc on est amis, on est alliés, mais ça veut dire qu'on peut avoir des désaccords.
Benjamin Houdet, pas de déclaration tonitruante lors de ce sommet européen à Malte. Est-ce que c'est quelque chose qui a manqué ou est-ce bien ce que vous diriez comme Alexandra de Hoopscheffer que c'était peut-être plutôt une attitude intelligente, ne pas se fâcher, en tout cas ne pas se fâcher trop vite, tout en quand même se préparant à une modification de la relation?
C'était plutôt une attitude intelligente, pardon, dans la mesure où il est nécessaire d'attendre effectivement les grandes orientations de l'administration Trump, mais on a aussi vu lors du sommet de Malte la volonté quand même des Européens de parler d'une voix unie quand même, et d'en finir avec le commentaire permanent des tweets de M. Trump. C'est-à-dire que désormais, comme le disait Christian Lequen, il faut voir quel sera le Trump à l'épreuve du pouvoir, quelles seront ses grandes orientations. Ce que nous avons peur quand même en Europe, c'est que certains États aillent discuter directement avec la Maison-Blanche en passant outre le fait communautaire et en passant outre les structures de l'Union européenne. C'est un peu ça dont nous avons peur et c'est un peu ce qui a été dit lors de la visite de Theresa May à la Maison Blanche, qu'elle était allée discuter de manière unilatérale avec la Maison Blanche.
Voilà. Alors les Européens vont avoir assez vite l'occasion peut-être de manifester leur unité face à une décision du président américain Donald Trump à travers la nomination de l'ambassadeur américain auprès de l'Union Européenne, celui qui sera à Bruxelles. Il s'appelle Ted Mallock. Il s'est manifesté en faisant connaître des positions en faveur du Brexit. Il appelle au démantèlement de l'Union Européenne. Il conseille même, parce qu'il, alors, je crois qu'il travaille pour un think tank, de spéculer sur la fin de l'euro. Est-ce que l'Union européenne, là, ne devrait pas marquer le coup et dire clairement qu'elle s'opposera, quoi qu'il arrive, à la nomination de cet ambassadeur, Alexandra de Hoopscheffer?
Moi, je pense que ce serait un signal fort, effectivement, ce potentiel futur ambassadeur a des opinions extrêmement radicales et anti-Union européenne. Il a d'ailleurs comparé l'Union européenne à l'URSS. C'est que comme l'URSS s'était démembré, qu'il prédisait en gros le même avenir à l'Union européenne. Donc c'est ce type de discours auquel on assiste. Et plus globalement, c'est la première fois de toute l'histoire américaine, ou en tout cas depuis le président Truman, qu'une administration américaine prend parti pour la désunion de l'Union européenne. Et ça, c'est quand même très nouveau, c'est très grave. Effectivement, cette espèce de bilatéralisme outrancier avec cette relation très spéciale avec le Royaume-Uni qui a toujours existé, mais maintenant le contexte, c'est le Brexit. Donc ce renforcement explicite avec le Royaume-Uni qui est en train de quitter l'Union européenne et ce mépris pour le reste des pays membres de l'Union européenne est totalement nouveau. Et c'est ça qui bouscule, je dirais vraiment, la nature de la relation transatlantique. Et dans ce cas-là, quelle doit être la réponse européenne? C'est ça la question.
Donc ça mérite peut-être quand même à un moment donné aussi, Christian Lequen, d'avoir des positions qui soient communes et qui soient audibles et fortement audibles, non?
Oui, alors on peut penser, c'est un scénario optimiste, que dans le fond, Trump va réussir à fédérer peut-être les Européens, c'est la vieille théorie de l'ennemi fédérateur, mais ça dépend aussi des débats de politique intérieure sur l'Europe dans les États de l'Union européenne. Maintenant sur Ted Mallock, moi je trouve qu'il lui devrait y avoir effectivement une position forte pour dire que on ne lui donne pas l'agrément, en quelque sorte. Voilà. Alexandra de Hoopscheffer l'a très bien dit. On a eu des différends avec les Américains sur les questions commerciales. On a eu des différends sur les questions de sécurité. On se rappelle tous de l'Irak 2003. Mais il n'y a jamais eu une position officielle de Washington contre le processus de l'intégration européenne. Alors que là, c'est ce qu'on est en train de voir, et ce monsieur est le représentant le plus extrême de cette position.
Ça peut être une ligne rouge parmi d'autres. Absolument. Que l'Europe devrait décréter, en tout cas définir, en disant aux Américains, bah voilà, nous on est peut-être prêt à discuter, on est prêt à ce que la relation transatlantique soit modifiée, mais il y a des choses sur lesquelles on ne transigera pas.
Je trouve que là, on pourrait marquer le coup et ça marquerait aussi le rapport de force. Et je pense que M. Trump est une personne qui est sensible au rapport de force.
Benjamin Houdet.
Oui. La manière dont est posée la question, effectivement, la France et l'Europe ont-elles intérêt à se fâcher ou non avec les États-Unis ? Place au fond la situation dans un choix entre nos intérêts et nos valeurs. On sait que c'est un vieux débat dans les relations internationales, on sait que c'est même un débat fondateur entre ceux qui considéraient que les intérêts étaient posés, pour toujours, par la géographie, par les administrations, par le système international, et ceux qui considéraient, au contraire, que les intérêts étaient plutôt un programme de recherche. Et avec cette autre alternative à la question, qui est celui des valeurs, qui est aussi un programme de recherche et quelque chose qu'il nous faut trouver. La question, je pense, n'est pas tant de savoir si nous avons intérêt à nous fâcher ou pas avec les États-Unis, mais a-t-on des problèmes en commun à résoudre ensemble au XXIe siècle ? Je pense que c'est ça. Après, le travail de la diplomatie se fera. Nous sommes habitués à avoir des désaccords transatlantiques, à avoir... Certains parlaient même dans les années 90 de malentendus transatlantiques. C'est le jeu de la diplomatie, c'est le jeu des relations internationales, d'avoir des désaccords. Mais nous sommes capables de les régler, nous sommes parfois capables de trouver des positions communes. A-t-on des problèmes à régler ensemble au XXIe siècle ? La difficulté, c'est que M. Trump nous place dans une situation d'incertitude, où avant nous avions peu parfois des hommes politiques qui avaient des positions révisionnistes ou des positions conservatrices, mais au moins qui avaient une certaine forme de réflexion politique en amont et qui proposaient un vrai programme. Là, pour le coup, nous avons le sentiment que les tweets sont l'expression terminale et définitive de sa réflexion politique. Et il est très compliqué de se positionner politiquement par rapport à des tweets. Donc la question est vraiment de savoir si les administrations américaines seront capables, au fond, de réguler cette espèce de dérégulation qu'on voit aujourd'hui à la Maison-Blanche.
Vous évoquez les intérêts communs, mais la relation aujourd'hui transatlantique, Alexandre Dobscheffer, elle est bien quand même en partie basée sur les valeurs. Si la France a une politique très atlantiste, en particulier depuis Nicolas Sarkozy, ça a été d'ailleurs reconduit avec la présidence de François Hollande, c'est bien aussi parce que on considère que et l'Union européenne et les États-Unis appartiennent au même camp, le camp occidental qui repose justement sur un certain nombre de valeurs communes.
Bien
donc
sûr.
C'est peut-être là que ça devient compliqué aujourd'hui.
Bien sûr, la communauté transatlantique, qui est d'ailleurs incarnée par l'OTAN, par l'Alliance Atlantique, est fondée à la fois sur une communauté des intérêts et une communauté des valeurs. Et c'est vrai que quand vous voyez que la communauté des valeurs commence à s'effriter, la communauté des intérêts va s'effriter et vice-versa. Donc c'est pour ça que c'est absolument fondamental de conserver ce terreau commun de valeurs. Or, qu'est-ce que l'on voit ? C'est que le président américain s'éloigne de ce qui a toujours été la grand strategy, la grande stratégie américaine, c'est-à-dire notamment de renforcer les alliances sur lesquelles les États-Unis ont bâti l'ordre libéral international, de promouvoir la paix en coopération avec ses alliés, en numéro un, les Européens. Là, on voit tout le contraire. Mais qu'est-ce que l'on constate aussi en Europe ? Parce qu'on est là en train de dire l'Europe doit avoir une voix forte, une réponse forte. C'est que ce que François Hollande a appelé l'espace de démocratie en Europe est en train aussi de s'effriter. Vous avez la Pologne, vous avez la Hongrie, la République tchèque, qui dit, en réaction au décret anti-immigration de Trump, eh bien... laissez-le librement interdire l'entrée sur le sol américain. Nous, d'ailleurs, on soutient la politique de Trump. Donc, vous avez une voix désunie de l'Union européenne face à Trump, ce qui fait qu'on finit avec une déclaration qui est assez molle, finalement, à Malte. Donc, il faut aussi qu'on regarde, nous, notre problème aussi de valeurs et de défense de ces valeurs en Europe.
Et oui, Christian Lecan, très compliqué aujourd'hui pour l'Union européenne de s'opposer à Trump au nom des valeurs, en tout cas à propos de cette décision d'interdire l'accès des États-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans, parce qu'on voit bien que la question de l'immigration, la question du droit d'asile, la question des frontières aujourd'hui, c'est une question qui est loin de faire commun au sein de l'Europe.
Hein. Bien sûr, il y a tout un tas de personnes au sein des sociétés européennes, des partis politiques qui aujourd'hui partagent les valeurs de Trump, évidemment, et vice-versa. Et ça, c'est un point important quand même dans notre relation avec les États-Unis. Il y a toute une partie de la société américaine qui ne les partage pas. Et comme on ne peut pas aujourd'hui limiter les relations internationales aux relations transatlantiques, nous devons aussi penser à cette partie de la société américaine qui ne partage pas les valeurs de Trump, qui descend dans la rue, qui manifeste, parfois les juges, on le voit avec les décrets, mettent en avant le droit contre l'arbitraire. Donc tout ça, nous devons aussi apporter, je trouve, en tant qu'Européens, notre soutien à cette partie de la société américaine. Ouais.
Ce samedi aura été une journée de manifestations anti-Trump dans plusieurs villes dans le monde. Ce qui cristallise le mécontentement, c'est le décret anti-immigration adopté il y a une semaine par le président américain. À Londres, des milliers de personnes s'étaient rassemblées devant l'ambassade des États-Unis. Ils dénoncent la politique de Donald Trump vis-à-vis des réfugiés, mais ils critiquent aussi l'attitude de la première ministre britannique, Theresa May, qu'ils jugent complaisante vis-à-vis du nouveau président américain. Je pense que partout dans le monde, les gens sont dégoûtés, affirme cette femme. Pour nous, son décret anti-immigration est totalement injustifié. Il faut bien voir que cette interdiction vise des musulmans issus de 7 pays, dont 4 ont été bombardés par les Américains. À Paris, des centaines de personnes ont défilé entre la place du Trocadéro et le Champ de Mars. Parmi les manifestants, de nombreux ressortissants étrangers installés dans la capitale française.
Voilà, reportage tout récent, hein, puisque c'était ce week-end, avant-hier, donc une série de manifestations en Europe. C'est compliqué, Christian Lequen, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre entre ce que sont finalement les intérêts. On voit à quel point ils peuvent être divergents en Europe des différents pays, dans leurs relations à l'égard des États-Unis. Et puis, on va dire, ce qui relève peut-être davantage de l'affichage, en tout cas, du message que l'on adresse à l'opinion publique. On voit bien, alors même si ce n'était pas des manifestations monstres comme il y a pu y avoir en 2003 avant l'intervention américaine en Irak, mais il faut aussi avoir quand même un discours qui montre qu'on refuse ce genre de politique.
Oui, et c'est ça la politique étrangère moderne, la diplomatie moderne, c'est d'avoir une forme de réal politique, et ça les diplomates d'État savent très bien le faire, c'est-à-dire il faut savoir parler avec ceux qui ne partagent pas nos intérêts ou nos valeurs, mais il faut aussi un discours sur les valeurs. On ne peut pas aujourd'hui avoir une politique étrangère sans les deux. Enfin, je crois que les deux font complètement partie de la manière dont on mène aujourd'hui une action diplomatique. Et on voit que le discursif sur les questions normatives fait complètement partie de la politique étrangère, bien sûr. Donc, ramener la politique étrangère simplement à des intérêts rationnels, etc., une chose que j'entends encore assez souvent, ça peut être une position théorique, mais je crois que ça ne correspond plus à un monde où les sociétés, les opinions publiques font complètement partie aujourd'hui du débat de politique étrangère.
Oui, c'est la très longue discussion entre ce que nous appelons le réalisme en relations internationales et l'idéalisme de courant en structure pour les relations internationales. Mais c'est cette vieille relation entre les deux. La question est de savoir comment on fait dialoguer les deux. C'est pas soit d'aller vers l'un, soit d'aller vers l'autre, mais comme disait M. Lequen, c'est la diplomatie moderne de pouvoir réconcilier les deux. Chez certains grands réalistes américains comme Henry Kissinger, il a été très tôt question dans ses écrits de dire « Pour savoir ce que nous voulons faire et ce que nous voulons être, il faut commencer par savoir ce que nous sommes. » qui est tout au fond une manière de dire, il faut que nous soyons d'accord sur nos valeurs. Face à l'Union soviétique à l'époque, il considérait qu'il y avait quand même quelque chose à sauver dans la démocratie américaine. Donc la question est l'articulation des deux et non le sacrifice de l'un pour l'autre. C'est vraiment ça tout l'enjeu aujourd'hui. Et la question migratoire étant au centre des débats aujourd'hui, effectivement... Il est aussi juridiquement fondé pour un pays, même si nous pouvons le déplorer, d'accepter ou non que des gens rentrent ou pas sur son territoire. C'est-à-dire c'est tout l'enjeu des smart borders mis en place après le 11 septembre et que nous connaissons quand nous allons dans les aéroports où effectivement la frontière américaine maintenant est dans les aéroports de Roissy et a été projetée au dehors du territoire américain. Donc c'est cette contradiction-là, ces dilemmes-là qu'il faut tenir ensemble. C'est tout l'enjeu.
Alexandra Dobschäfer, sur cette question du poids des opinions publiques des sociétés, est-ce que c'est une dimension qui aujourd'hui est obligatoirement prise en compte dans ce que peuvent être les relations internationales, et en l'occurrence là, dans les relations entre l'Union européenne et les États-Unis.
Ça doit être pris en compte, mais encore faut-il que nos politiques soient cohérentes et en cohérence avec les valeurs, soi-disant, qu'on défende. Quelle a été la décision phare qui a été prise à Malte? Ça a été de conclure un accord avec la Libye, qui est un État failli, pour contenir les flux de migrants et les empêcher d'arriver en Europe. Qu'est-ce qu'a fait Merkel il y a quelques mois? Elle a conclu un accord avec la Turquie, un État autoritaire, pour contenir les flux de migrants en Grèce. Est-ce que c'est ce type, je veux dire, de valeurs et de politique, est-ce que c'est avec ce type de politique qu'on va confronter quelqu'un comme Trump? Est-ce que c'est avec ce type de politique qu'on va pouvoir être en osmose avec cette opinion publique qui se soulève contre les mesures prises dans ce décret anti-immigration? Est-ce que c'est avec ce type de mesures qu'on va séduire l'électorat pro-FN ou autre pour essayer de réorienter leurs choix électoraux? Moi, je ne suis pas persuadée. Et si c'est ça le résultat d'une réunion des 27 ou 28, on ne sait plus trop, pays de l'Union européenne, je trouve ça quand même très, très, très faible.
Alors, il y a peut-être une façon de retrouver un peu de cohérence, c'est d'agir non plus à 27 ou à 28, mais d'agir seul. Est-ce que la France, alors là, j'en viens à la France, Alexandra de Hoopscheffer, n'aurait pas intérêt peut-être à reprendre un petit peu le large et à, disons, avoir une relation un peu plus distendue avec les États-Unis, plus distendue en tout cas qu'elle n'a été depuis les deux derniers quinquennats?
Alors, on l'a déjà fait, hein, à plusieurs moments de l'histoire politique française, avec plus ou moins de succès. Là, aujourd'hui, malheureusement, on est en position de faiblesse avec un président français qui est sortant. Donc, bien entendu, il est dans une position, entre guillemets, assez facile dans son opposition dure face au président Trump, parce qu'il va de toute façon ne plus être là d'ici quelques semaines. Merkel, elle, c'est plus délicat, parce qu'elle risque, elle, d'être là encore d'ici quelques années. Et donc, on voit que son discours est beaucoup plus modéré. Donc, vous avez aussi cette conjoncture électorale qui nous affaiblit, mais effectivement, je pense que la politique française a été finalement assez stable, assez cohérente vis-à-vis des États-Unis. Encore une fois, on est allié avec les Américains. Regardez, qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a lié ces dernières années avec les États-Unis? C'est la coopération militaire de défense, la lutte contre le terrorisme. Les Américains nous appuient avec leurs capacités militaires et de renseignement au Mali, dans le Sahel. Nous, on a travaillé avec les Britanniques, mais aussi les Américains en Libye. Donc cette coopération-là, notamment dans la lutte contre le terrorisme en matière de défense, est absolument clé dans la relation franco-américaine, voire a même dépassé la relation américano-britannique sur les questions militaires. Et donc moi, la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ces coopérations cruciales entre les Américains et les Français et d'autres pays perdurent malgré les bouleversements politiques.
Une relation qui serait une relation un peu moins proche qu'elle ne l'a été ces dernières années, Benjamin Houdet, entre, mettons, la France et les États-Unis, pourrait remettre en cause le niveau de coopération des services de renseignement, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui, de toute manière, se poursuit? Est-ce qu'on peut justement peut-être voir à travers les exemples passés, notamment 2003, voir si cette coopération avait continué à exister de la même manière, ou bien s'il y avait eu de fortes interruptions, disons?
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Madame de Hoopscheffer sur le fait que la coopération entre la France et les États-Unis a peut-être, dans le domaine des coopérations militaires et de défense, dépassé les coopération entre les États-Unis et l'Angleterre. En revanche, pour ce qui est des coopérations de renseignement, n'oublions pas que les États-Unis sont la pièce centrale de ce fameux système qui est très connu maintenant des Five Eyes, avec le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Angleterre, et que c'est encore, pour eux, leurs vrais alliés, ce sont les membres des Five Eyes. Nous faisons partie d'autre chose pour les États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes des alliés très proches, mais nous sommes autre chose en termes de coopération. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que dans le domaine spécifique du renseignement, les acteurs aujourd'hui nous disent nous sommes à plus de 95% de transparence quant à la coopération. C'est-à-dire qu'il en va de la responsabilité des services et des agences de coopérer un maximum parce qu'elles ne veulent pas être, après l'événement, accusées de ne pas avoir transmis la bonne information sur les suspects et sur l'événement qui allait se produire.
Niveau de coopération, Benjamin Houdet, il est autorisé par la grande proximité qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les États-Unis et la France, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui finalement est relativement indépendant?
C'est très compliqué de le savoir dans la mesure où l'investigation, si vous voulez, dans le contexte spécifique du renseignement, pour le chercheur, est assez complexe. Il faut avoir accès au terrain et le savoir. Ce qu'on peut voir et ce que nous disent les acteurs, c'est que malgré les évolutions encore indéterminées de la politique internationale et de la grande stratégie américaine, c'est que peut-être les relations entre les services français et les services américains seront en fait le vrai lieu de stabilisation de la relation, parce que justement, vous l'avez évoqué, l'affaire de 2003, alors que le boycott sur les produits français était encore en cours, la coopération a repris entre la CIA et la DGSE, considérant que nous avions un problème à régler en commun et qu'il était de nos intérêts supérieurs de reprendre la coopération qui a repris quelques semaines après le 11 septembre.
Christian Lequesne, est-ce que dans le corps diplomatique au sein duquel vous avez enquêté, on a conscience aujourd'hui justement de ces différents niveaux de coopération qui peuvent exister et donc peut-être du fait que la diplomatie n'explique pas à elle seule l'état des relations qu'il peut y avoir entre différents pays, donc là en l'occurrence entre la France et les États-Unis?
Oui, bien sûr qu'on en a conscience, parce qu'il y a quand même un principe de réalité chez les diplomates. Ce sont des gens quand même qui travaillent sur le terrain. Non, je pense que moi j'ai distingué, en prenant un certain risque, deux familles en quelque sorte, ce que j'appelle deux cartes mentales, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut avoir une démarcation systématique des États-Unis et ceux qui, au contraire, pensent qu'il faut aujourd'hui accepter qu'on fait partie d'un camp occidental et qu'on partage avec les Américains aussi, parce qu'on est une puissance moyenne et non plus une grande puissance au sens gaulliste du terme, qu'il faut partager avec les Américains.
Vous citez un directeur du Quai d'Orsay dans votre livre qui dit ceci: à l'égard des États-Unis, la France doit avoir une relation normale, sinon nous ne sommes pas écoutés par les Américains qui se disent c'est encore l'opposition de principe des Français.
Voilà, ça c'est un peu la nouvelle génération, si je puis dire, qui pense comme ça, et puis plutôt celle qui travaille sur les questions de sécurité. Mais au final, aucune des deux familles n'est satisfaite par Trump, puisque les occidentalistes croient beaucoup à l'Alliance Atlantique et croient beaucoup, à la coopération institutionnalisée. Et puis, ceux que j'appelle les partisans de l'indépendance et du rang, ils veulent le respect. Ils veulent le respect de la France. Et Trump ne semble pas, dans ses déclarations, respecter les États européens. Hein. Donc, vous voyez, dans les deux cas, on voit pas tellement les affinités avec Trump.
Et est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, Christian Lequesne, au sein du Quai d'Orsay, il y a une confrontation, entre guillemets, amicale, bien sûr, enfin en tout cas pacifique, disons, entre les partisans d'une ligne et les partisans de l'autre ligne, et que à la faveur de l'élection de Donald Trump, les lignes, en tout cas, sont en train de bouger?
Non, je pense que ce qui pourrait faire bouger les lignes, c'est l'élection française. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait un président de la République qui soit un partisan du retour de la logique pure et simple des intérêts, c'est-à-dire en gros qui se démarque clairement de la ligne Sarkozy-Hollande en politique étrangère, pas très différente, disons les choses franchement, pour revenir à une vieille posture gaulliste, là, ça pourrait faire bouger les lignes, effectivement. Mais ça voudrait dire éventuellement un François Fillon élu avec une politique très gaulliste. Un, François Fillon est en bien mauvaise posture, comme nous le savons, pas sûr qu'il soit candidat. Et deux, il est possible qu'une fois élu, il mette un peu d'eau dans son vin pour ce qui est de la gestion de la politique étrangère.
En tout cas, en matière de politique gaulliste, celui qui sans doute l'appliquait le mieux, c'était le général de Gaulle lui-même. Quand il voyait que les lignes bougeaient, il adaptait justement la stratégie de politique étrangère. Écoutez-le, nous sommes en février 1966, évidemment nous n'avons pas choisi cette date au hasard, c'est une conférence de presse du président de la République.
Alors nous parlons de l'OTAN. Rien ne peut faire qu'une loi s'impose sans amendement quand elle n'est plus d'accord avec les mœurs. Rien ne peut faire qu'un traité soit valable intégralement quand son objet s'est modifié. Et rien ne peut faire qu'une alliance reste telle qu'elle quand on changeait les conditions qui étaient celles dans lesquelles elle avait été conclue. Au total, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. On voit qu'il s'agit là non pas du tout d'une rupture, mais d'une nécessaire adaptation.
Alexandre Dobscheffer, cette archive qui remonte à il y a un tout petit peu plus de 50 ans, elle prend une autre coloration, je dirais, aujourd'hui, avec Donald Trump, président des États-Unis.
Oui, absolument. Et je pense que la projeter dans le contexte actuel fait tout à fait sens. Je pense que le dernier mot qu'il a utilisé, adaptation, est tout à fait juste. Je pense que c'est même le principe des relations internationales, des relations diplomatiques, c'est de savoir s'adapter à des situations nouvelles. Sinon, on n'est pas diplomate. C'est le rôle du diplomate, c'est de s'adapter à des environnements politiques, sociaux, internationaux différents. Un exemple très concret de ce qui se passe en ce moment, c'est de regarder du côté de l'OTAN. C'est très intéressant. Trump est en train de s'adapter.
Oui, parce que permettez-moi juste une petite parenthèse. Oui. Février 66, on est juste avant la France qui sort du commandement intégré.
Exactement. Voilà. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est de prendre justement l'exemple de l'OTAN aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Du côté de l'OTAN, on a un secrétaire général qui a écouté le discours de Trump, qui lui a dit ce week-end, écoutez, on a entendu que vous souhaiteriez que l'OTAN fasse plus de contre-terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dizaine, alors c'est vraiment symbolique, d'officiers de l'OTAN qui sont aujourd'hui déployés en Irak pour faire de la formation des forces de sécurité irakiennes contre Daesh. De l'autre côté, vous avez Trump qui finalement est revenu sur son discours de l'alliance obsolète parce qu'il commence à y voir quand même une certaine utilité et il sera bien présent au prochain sommet de l'OTAN qui aura lieu fin mai à Bruxelles. Là, vous avez des deux côtés une adaptation des discours et de la politique. Et c'est ça la diplomatie. Donc effectivement, moi je pense pas que Trump va être refaçonné par les contre-pouvoirs et par les républicains du Congrès, mais il va être façonné par le rapport de force internationaux. C'est exactement ce que l'on voit se produire. Et là, peut-être que ça peut laisser quelques espoirs, en tout cas dans la relation transatlantique. On le voit de manière très nette, en tout cas, en ce qui concerne l'Alliance Atlantique.
Benjamin Audet et Christian Lequen.
Pour ce qui concerne la question de l'OTAN, il faut être très clair sur ce qu'on veut. C'est-à-dire, on oppose souvent souveraineté nationale et participation à des alliances. C'est une manière assez particulière de voir les choses, dans la mesure où justement la participation à ces alliances comme l'OTAN nous permet, si nous développons les bonnes capacités, notamment, je pense en matière de renseignement, de pouvoir apporter une contre-analyse, une contre-expertise et de faire peser, dit-on, la voix française dans les décisions. C'est exactement la position que tient aujourd'hui en France la direction du renseignement militaire à travers son directeur qui dit il faut que nous développions des capacités de contre-analyse et pour conserver notre autonomie de décision et notre autonomie stratégique. Donc il est absolument nécessaire
C'est-à-dire qu'il faut que nous développions, ça veut dire qu'aujourd'hui elles sont sous-développées?
Non, c'est qu'il faut les développer plus dans la mesure où, comme vient de le dire Alexandra Deutscheffer, l'OTAN se destine à faire de plus en plus de contre-terrorisme qui est au fond une guerre du renseignement.
Christian Lequen.
Oui, sur cette question du rapport de force, moi je partage absolument ce qui vient d'être dit et je crois que le meilleur moyen de justement poser ce rapport de force, c'est d'être unis en Europe. Et donc, il faut espérer qu'à l'issue des élections françaises et allemandes, on ait un chancelier et un président, ou une chancelière et un président, ou une présidente, je sais pas, enfin, compatibles. Et que il y ait une vraie relance franco-allemande de l'intégration européenne. Ça, c'est une façon, à mon avis, de marquer le rapport de force vis-à-vis de Donald Trump.
Sauf que, Christian Lequen, la question du rapport de force, on peut peut-être l'envisager relativement facilement quand on arrive à évaluer, justement, la force de l'adversaire et ce que peuvent être ses réactions. Or, ce qu'on dit beaucoup depuis qu'il est arrivé au pouvoir, justement Donald Trump, c'est le haut niveau d'imprévisibilité de sa politique étrangère, avec peut-être le risque de provoquer des réactions qui seraient démesurées par rapport à ce qui serait décidé. Donc là, la complexité, elle est quand même plus importante que peut-être même que par rapport à un interlocuteur comme Vladimir Poutine, dont on mesure peut-être davantage finalement ce qu'il est et ce qu'il peut faire.
Oui, je ne sais pas si Vladimir Poutine est plus rationnel que Donald Trump. J'en suis pas certain. J'entends bien les arguments, mais je crois qu'il réagit aussi beaucoup de façon impulsive et de façon très symbolique, en quelque sorte. Donc, de manière générale, je ne veux jamais surestimer la rationalité des acteurs de politique étrangère, des acteurs de politique, d'ailleurs de manière plus générale. Mais j'entends bien ce que vous dites sur l'imprévisibilité. Mais en même temps, si l'imprévisibilité de M. Trump le mène à des échecs successifs, il va bien falloir quand même qu'il change un peu. Il va pas pouvoir être dans une position d'échec tout le temps. Et là, la question, c'est une question de politique étrangère, aussi une question de politique intérieure, de la résistance des tribunaux à son décret contre l'entrée d'un certain nombre de nationalités sur le territoire. À mon avis, ça va être très intéressant de voir la manière dont il va tirer les leçons de tout ça.
Alexandra de Schaeffer, vous êtes aussi confiante, j'ose dire, que Christian Leclerc.
Non, je suis pas confiante.
Trump a...
Vous êtes moins pessimiste, disons, que l'était la question, peut-être.
On a commencé par une analogie entre Trump et Poutine. Je pense que là où ils se ressemblent plus, c'est effectivement que Trump, finalement, emprunte les mêmes tactiques de déstabilisation que Poutine. Il cherche à déstabiliser ses adversaires, ses alliés. Il teste les lignes rouges de chacun, que ce soit nous, Européens, en disant que l'OTAN est obsolète, que l'Union Européenne va de toute façon se démanteler.
Sauf qu'on prend rarement Poutine en défaut d'incohérence,
oui.
Quand même.
Non, c'est vrai. Mais Trump, finalement, si vous voyez le discours qu'il porte aujourd'hui, si je peux le résumer ainsi, il y a de la cohérence dans son incohérence. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, il l'avait écrit même dans les années 80-90. Son obsession, c'est effectivement d'être dans la transaction en permanence et de renégocier les accords, les alliances qui semblent défavoriser les intérêts et les intérêts immédiat des États-Unis.
C'est une tribune pour Le Monde, vous écriviez « La diplomatie pour Trump est un grand marchandage, oui, tous azimuts, où les alliances n'ont de sens que si elles servent les intérêts immédiats des États-Unis. »
Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut montrer notre utilité aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'Union européenne reste une alliée utile pour les États-Unis. Et c'est comme ça que lui va venir au sommet de l'OTAN, va venir au sommet du G20 à Hambourg en Allemagne. C'est ça qu'il faut lui donner. Il faut lui donner, c'est ce que fait le secrétaire général de l'OTAN, en disant on va continuer à pousser les États membres à augmenter leur budget de défense, on va faire plus de contre-terrorisme. Et c'est comme ça qu'on va s'adapter à la politique de Trump. Après, effectivement, nous-mêmes, on a nos limites. On ne va pas faire des compromis sur tout. Donc là, c'est...
Oui, on pourrait même parler de compromission en
oui,
allant aussi
bien
loin.
Bien sûr. Et c'est là où, dans le cas de l'Union européenne, on doit définir quelles sont nos lignes rouges aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on veut en tant qu'Européens absolument préserver aujourd'hui dans l'ordre européen et l'ordre international? Et quels sont les sujets sur lesquels on est prêt à faire des compromis et à s'adapter? Et ça, c'est pas seulement avec les Américains. On signe des accords avec la Turquie, la Libye pour régler la crise migratoire. La Syrie, aujourd'hui, elle est en train d'être gérée sans nous, sans les Américains, par la Russie, par l'Iran par la Turquie. Donc on voit aussi que la relation transatlantique aujourd'hui n'est peut-être plus au cœur non plus. Les défis, la gestion des crises est en train de nous échapper également d'une certaine manière. Donc comment nous replacer, nous Européens, avec les Américains, au cœur de ces crises qui nous affectent, nous Européens, directement? La crise syrienne nous affecte, nous en premier Européens, et on la laisse être gérée par la Russie, l'Iran et la Turquie. Donc c'est ça qu'il faut aussi remettre au cœur de la relation transatlantique.
Benjamin Houdet.
Oui, il faudra établir des lignes rouges, mais j'ai quand même l'impression que c'est la première fois dans l'histoire de l'analyse de politique étrangère qu'on espère des inerties bureaucratiques, des pesanteurs des agences et des pesanteurs administratives qui seraient capables de contrôler et de réguler un peu effectivement cette certitude dans l'incertitude et cette confusion dans la clarté que représente monsieur Trump. Oui. C'est la première fois qu'on en arrive à espérer ce type de mécanisme dans l'État américain pour pouvoir réguler. Et au fond, ça testera aussi la solidité, bon, peut-être pas de la Constitution américaine, mais d'un certain nombre de principes qui sont les leurs. Et puis quand même, dans la question générale de doit-on se fâcher avec les États-Unis, il demeure quand même une démocratie. N'oublions pas.
Vous avez raison, habituellement, on pose la question différemment. C'est-à-dire qu'on espère qu'un homme politique, une personnalité,
sera capable de changer,
à réguler voilà. Un peu les inerties bureaucratiques. Or là, c'est exactement le contraire. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est dans quelle mesure la croyance de Trump dans le fait que tout ça est un complot du méchant establishment est le moteur de son action ou pas. Vous voyez, s'il considère que justement toute cette bureaucratie, toutes ces institutions, ces agences américaines, ce n'est que l'incarnation du méchant establishment contre le peuple qui l'a élu, à ce moment-là, il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Donc,
sauf s'il fait le ménage dans la bureaucratie.
Est-ce que cette croyance... Oui, ça sera difficile pour lui de trouver vraiment tous les substituts et toutes les alternatives, hein, parce que c'est quand même des grosses machines. Mais est-ce qu'il va bouger là-dessus ou pas? Ou est-ce que cette croyance va être le moteur de son action?
Et on voit à quel point c'est un sujet qui va encore nous occuper pendant quelques temps. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission, Alexandra Dobschaeffer, Christian Lequen et Benjamin Houdet, émission que vous pouvez réécouter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Louise Fuseau, émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec la prise de son Jean Frédérics. Demain, le sujet à partir de 18h20, la vie politique est-elle sous-financée ? Faut-il davantage d'argent pour faire fonctionner notre système politique français? Ce sera notre question. Dans un instant, vous allez retrouver Ping Pong avec Mathilde Serrel et Martin Kénéen. Mais d'ores et déjà, le sommaire, c'est avec vous deux. Mathilde et Martin, bonsoir.